Steve Waterhouse nous écoutait. C'est le spécialiste, évidemment, des cyberattaques, mais aussi de l'informatique au sens le plus large. Steve, bonjour.
Bonjour, Paul.
Steve qui nous dit qu'il y a des applications qu'on peut installer sur les ordinateurs pour savoir si les étudiants trichent ou non.
De plus en plus, les institutions d'enseignement commencent à utiliser ça, ont commencé, c'est-à-dire dans les dernières années, et ont accentué cette utilisation-là depuis le mois de mars, avril, évidemment, parce que les étudiants ne pouvaient pas se présenter en institution. Et ce qui est questionnable à travers l'utilisation de ces dix logiciels, c'est le type d'invasion de la vie privée qui rentre vraiment dans l'ordinateur et qui surveille tout qui se passe là, mais utilise la caméra. Vous parliez tout à l'heure de regarder l'action que l'étudiant fait, autrement dit par son corps, etc. Bien, il y a la caméra qui est exigée qu'elle soit en fonction pour étudier le comportement du corps de l'étudiant et évidemment écouter qu'est-ce qui se passe dans la pièce. Et même Paul, il y a de certains logiciels qui exigent, et les procédures aussi d'examen, de filmer au complet et de photographier la pièce où se tiendra l'examen pour éviter que ça soit justement une pièce qui soit avec d'autres personnes ou d'autres ressources permettant de forcer, mais d'aider l'étudiant dans son examen.
Le fils de Catherine Huet est étudiant, il termine ses études d'ingénieur, et il dit que c'est extrêmement stressant, Steve, ces caméras de surveillance, et que c'est beaucoup plus stressant que de passer un examen de façon plus normale à l'université directement.
Oui, puis qu'est-ce qui est, moi, ce que je trouve qui est dommage, c'est qu'après ça, là, ces logiciels-là, ils se disent éprouvés, ils se disent, en guillemets, légal de faire ça selon le besoin de la tâche. Mais même si j'aurais à faire d'autres examens pour professionnels, Paul, il faudrait que je fasse le même processus. C'est pas juste utiliser ça à l'université, mais bien dans beaucoup de sphères de mesures, de performance que c'est apporté. Et oui, la raison de la caméra qui nous pend, pour pas dire au bout du nez, mais qui nous observe constamment, peut être source de stress supplémentaire qui amène les gens à ce moment-là à être davantage perçus comme étant nerveux, ce qui peut même faire l'effet contraire de la surveillance, parce que là, dans le processus d'analyse, ils vont détecter que la personne est nerveuse. Puis ça peut résulter à dire, il y a quelque chose à cacher.
Très rapidement, on me fait signe, mais oui. Steve, est-ce qu'on peut étendre ça au télétravail? Parce que si on a ce niveau de tension, de stress pour les étudiants, on peut imaginer qu'il y a des gens qui ont choisi le télétravail ou qui n'ont peut-être pas choisi, mais qui pensent travailler de cette façon pendant encore un long moment durant la pandémie. Ça pourrait être la même chose également?
Ça pourrait être la même chose, mais là, ça on tombe à un problème aussi de normes de travail qu'il faudrait à ce moment-là rééditer, quelles sont les politiques de travail ayant une surveillance constante, parce que s'il doit y avoir enregistrement constamment de la personne dans son milieu de travail, et surtout dans l'environnement personnel de la maison, il y a un vide juridique là, qui est là, qu'il faudrait à ce moment-là qu'il soit adressé avant que ça soit permis.
Parce Bonne
sinon,
chance.
Ça va aller dans toutes les directions, mais oui.
Bonne chance. Imaginez-vous, la personne s'est-elle levée pour aller aux toilettes chez elle? Ou encore aller fumer une cigarette sur le balcon? Est-ce que c'était... Aïe, aïe, aïe. Ça ouvre la porte.
Brasser de lavage ou faire manger.
Une brassée de lavage. Merci beaucoup, Steve. C'était très intéressant. Donc, vous voyez, il y a des moyens de surveillance quand même pour les étudiants qui sont pris pour passer les examens.